Voilà, je vous remercie d'abord de m'avoir invité à vous parler. C'est la première fois que je viens vous voir, je crois. Je vais vous présenter les dernières nouveautés, la situation actuelle en 2016 sur le traitement du syndrome de Sjögren, qui a bien évolué, c'est-à-dire on a pas mal de nouvelles choses qui peuvent aider considérablement les patients. Je vous dis d'emblée que malheureusement, on n'arrive pas à guérir complètement tous les patients, mais on arrive à faire beaucoup chez beaucoup de patients. Je voulais encore m'excuser d'abord pour le retard. J'aurais dû venir plus tôt, mais j'ai eu un empêchement, ça c'est la première chose à dire. Et puis, une autre chose, c'est que je propose que ce soit le plus interactif possible, donc n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions au moment où défile la diapositive, de manière à ce que plus enrichissant pour vous et pour moi. Donc, allons-y de manière très, très ouverte. Alors voilà, le syndrome de Sjögren, donc, tient son nom. J'imagine que vous connaissez ces deux personnages, hein, de Gougereau, Henri Gougereau, qui était un dermatologue français, et de Henrik Sjögren, donc on dit généralement le syndrome de Gougereau-Sjögren, surtout en France. Mais j'imagine que vous savez ça mieux que moi depuis que vous connaissez un peu votre maladie. Et puis, il y a des personnes illustres que vous connaissez probablement aussi qui ont souffert de cette maladie, et en particulier Venus Williams. Et c'est intéressant parce qu'elle a dit des choses qui reflètent vraiment très très bien la vie des patients avec un syndrome de Sjögren. Donc, la traduction de ce qu'elle a dit dans USA Today en 2011, c'est « Je suis vraiment déçu d'avoir à me retirer cette année de l'US Open ». J'ai récemment été diagnostiqué avec le syndrome de Sjögren, une maladie auto-immune chronique. J'imagine que vous êtes tous, familiers avec le terme auto-immun. Hein. Auto-immun, c'est une maladie dans laquelle le système immunitaire se retourne en fait contre l'organisme avec la production d'auto-anticorps et puis de lésions de des glandes salivaires, des articulations, etc. Donc, elle parlait de sa maladie auto-immune chronique qui affecte son niveau d'énergie, c'est vraiment très 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 fréquent dans le syndrome de Sjögren, et provoque de la fatigue et des douleurs articulaires. Ce sont les autres manifestations classiques, en plus de la sécheresse oculaire et buccale. Elle dit « Je suis reconnaissante d'avoir enfin un diagnostic », parce que ça c'est un des gros problèmes du syndrome de Sjögren, c'est qu'il n'est pas toujours facile à diagnostiquer, surtout au début de la maladie. Et il y a énormément de patients qui traînent, si je puis dire, leur maladie pendant des années avant de recevoir ce diagnostic. Et ça a été son cas. Donc elle était très reconnaissante envers les médecins qui avaient finalement posé le diagnostic. Et elle est maintenant, dit-elle, concentrée sur la possibilité d'aller mieux et bientôt revenir sur les cordes. Et ça, c'est ce qu'elle disait donc en 2011. Alors, ça peut paraître très ambitieux pour beaucoup d'entre vous, hein, parce que jouer sur les cordes au niveau de Venus Williams, ça n'est pas rien. Alors, est-ce qu'il y est arrivé? Eh bien, vous savez, oui, j'ai entendu le mot oui. Effectivement, elle est arrivée et elle a gagné à Dubaï en 2014. Donc, elle était capable de revenir au plus haut niveau malgré sa maladie de Sjögren. Alors, comment est-ce qu'elle y est arrivée? Eh bien, je ne connais pas les détails de son traitement, mais elle a certainement bénéficié des nouveaux traitements actuels qu'on peut proposer pour ce syndrome. Donc ce syndrome, SS pour syndrome de Sjögren, c'est peut-être un peu malheureux comme acronyme, mais ce syndrome de Sjögren est très fréquent. Hein. On considère maintenant que sa prévalence est de 0,6%, donc pratiquement 1% de la population, c'est-à-dire les 1000 patients à Genève, hein, si c'est 1%. Clairement, ça touche beaucoup plus les femmes que les hommes, et d'ailleurs, ça se reflète dans notre assemblée ici. Et puis, le syndrome de Sjögren peut être primaire ou secondaire. Hein, ça, vous êtes certainement au courant de ça. Il n'y a pas environ 50% des syndromes de Sjögren qui sont primaires. Le reste étant associé à d'autres maladies, on verra un peu avec lesquelles. Parce que bien sûr, l'association avec d'autres maladies influence beaucoup les traitements qu'on va utiliser chez tel ou tel patient. Alors la chose suivante à dire, c'est que ce syndrome de Sjögren est vraiment extrêmement variable. Variable pour plusieurs raisons. D'abord, en sévérité, vous avez donc sur la gauche les formes très très légères, où les douleurs sont très modérées, vous avez une fatigue généralement et qui est difficile à distinguer de la fibromyalgie. Parce que toutes les manifestations qui sont présentes à ce moment-là sont relativement peu évidentes. Si on fait des radiographies des mains, elles sont normales. Si on fait des ultrasons, ils seront souvent normaux aussi, bien qu'ils peuvent montrer quelque chose. Les tests sanguins sont parfois positifs pour des anticorps antinucléaires, vous avez probablement entendu parler de ça, mais pas toujours. Et en plus, le FAN, les anticorps antinucléaires, ne sont pas très spécifiques. Il y a beaucoup de médecins qui vous diront vous avez une petite élévation du FAN, mais ça n'est pas suffisant pour poser un diagnostic. Et pour toutes ces raisons, donc le diagnostic est souvent très retardé. Ça, c'est pour les formes légères. Et puis à l'autre extrémité, on a des formes qui peuvent être hyper sévères avec une sécheresse majeure, des gros problèmes de sécheresse buccale ou dentaire, des douleurs articulaires très fortes, une fatigue, des douleurs musculaires, une inflammation musculaire, des atteintes neurologiques périphériques, c'est-à-dire des neuropathies, des atteintes neurologiques centrales qui peuvent donc toucher le système nerveux central, des dysfonctions thyroïdes, un purpura, des vasculites, donc des atteintes de la peau, atteintes des vaisseaux qu'on voit au niveau de la peau, des atteintes rénales, c'est plus rare que dans d'autres maladies comme le lupus, mais ça se voit aussi, et puis complications qui peuvent être sérieuses, les lymphomes, et là, surtout pour les formes graves de syndrome de Sjögren, il faut faire un suivi, mais on a un certain nombre d'éléments qui permettent de déterminer si un lymphome risque plus ou moins plausiblement de se déclarer ou pas. Et puis il y a des marqueurs qui peuvent aussi nous dire, des marqueurs sanguins qui peuvent nous dire attention, là on risque de développer un lymphome. Autre chose qui est très importante, c'est bien sûr de faire des examens cliniques fréquents, une examination pour voir s'il y a des ganglions, pour voir s'il y a une grosse tuméfaction des parotides qui peuvent refléter, signifier le développement d'un lymphome. Et puis entre les deux, on a des formes moyennes, intermédiaires, on a vraiment toutes les possibilités le long de ce spectre entre les formes très légères et les formes très sévères. Alors bien sûr, là aussi, le traitement dépendra de la sévérité de la maladie. Et puis, il est aussi variable dans la mesure où il peut être isolé, donc sous la forme d'un syndrome de Sjögren primaire, ou associé à une autre maladie, syndrome de Sjögren secondaire, le plus souvent à une polyarthrite rhumatoïde, mais aussi à un lupus, à une polymyosite, une connectivite mixte, une sclérodermie ou une spondylarthrite. J'ai mis un point d'interrogation parce que la spondylarthrite est un peu en dehors de cette famille des connectivites qui sont le plus souvent associées au syndrome de Sjögren. Ces connectivites, c'est un groupe de maladies, ce groupe-là, qui sont caractérisés par des auto-anticorps. Alors dans les spondylarthrites, on n'a pas, en tout cas pas mis en évidence pour le moment, d'auto-anticorps, mais il y a pas mal de descriptions de cas de patients qui ont des spondylarthrites avec un syndrome de Sjögren. La spondylarthrite, c'est une maladie qui touche le dos et le bassin, avec une raideur généralement, et qui peut donc, selon certains rapports, être associée au syndrome de Sjögren. Alors comment on traite ce syndrome de Sjögren quand on est en présence d'un syndrome de Sjögren? La première chose, c'est de s'assurer du diagnostic. Pour plusieurs raisons, notamment parce que le syndrome sec n'est pas spécifique du syndrome de Sjögren. Il y a toute une série de conditions, de maladies, de traitements qui peuvent être associées au syndrome de Sjögren. Et c'est important de savoir d'abord parce qu'il ne faudrait pas poser un diagnostic de Sjögren pour rien. Et puis la deuxième chose, c'est que il peut y avoir, chez quelqu'un qui a un syndrome de Sjögren, l'adjonction d'autres facteurs qui feront que le syndrome sec sera plus fort, plus problématique, et qui devrait être traité d'une autre manière. Donc il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a d'autres causes de sécheresse buccale ou oculaire. Alors, vous avez des maladies comme la sarcoïdose, l'amyloïdose, l'hémochromatose, la simple déshydratation, le diabète, le stress, l'anxiété, ça peut favoriser la sécheresse. Donc il y a beaucoup de patients fibromyalgiques qui se plaignent d'une sécheresse, qui sont peut-être fibromyalgiques, mais qui sont peut-être souffrants d'un syndrome de Sjögren qui n'a pas pu être bien démontré. Des médicaments, toute une série de médicaments les neuroleptiques, les antidépresseurs, les antiparkinsoniens, les antihypertenseurs, les antihistaminiques, les infections virales et en particulier le HIV, les oreillons bien sûr, le vieillissement, les traumatismes, des irradiations, les patients qui ont été irradiés, ou bien des problèmes génétiques congénitaux avec une agénésie, donc une non-croissance normale des glandes salivaires ou lacrymales. Donc vraiment toute une série de conditions qui peuvent produire une sécheresse et qu'il faut garder à l'esprit. Alors le traitement dépendra bien sûr du diagnostic, de sa sévérité, du type d'atteinte. Il dépendra aussi des attentes et des craintes du patient, parce qu'il y a des patients qui acceptent assez volontiers un certain degré de douleur, un certain degré de sécheresse, et qui ont peur des médicaments, et d'autres qui inversement veulent absolument être le mieux possible, comme par exemple pour jouer au tennis au niveau mondial, quitte à prendre des médicaments extrêmement puissants. Donc il faut tenir compte des attentes et des craintes éventuelles du patient. Il faut beaucoup discuter tout ça entre le patient et le médecin, de manière à bien définir les buts de chacun, les sentiments de chacun sur la question, de manière à s'accorder là-dessus. Et puis, bien sûr que le traitement dépendra aussi de la tolérance du patient aux médicaments. Pratiquement tous les médicaments peuvent avoir des effets secondaires, et il y a certains médicaments qu'on ne proposera pas chez quelqu'un parce que, par exemple, il a une maladie pulmonaire qui fera que certains médicaments seront contre-indiqués, une maladie du foie qui fera que d'autres maladies seront contre-indiquées. Donc tout ça, ça doit être pris en compte. Et puis en plus, il faut réaliser que le traitement dépendra beaucoup du médecin aussi. Des compétences du médecin d'abord, et je pense que le syndrome de Sjögren est une maladie assez complexe et qu'il faut qu'il soit suivi par quelqu'un qui connaisse bien la maladie. Et je pense qu'il faut en tout cas que ce soit un rhumatologue ou un immunologue ou un interniste. En France, les internistes sont souvent, connaissent très bien ce type de maladie. En Suisse, les internistes les connaissent moins bien. Et je pense qu'en Suisse, il vaut mieux que ce soit un rhumatologue ou un immunologue. Et puis, ça dépendra aussi du tempérament du médecin. Parce qu'il y a des médecins qui n'aiment pas trop donner des médicaments puissants en disant « le mieux, c'est de ne pas faire le mal ». Selon des vieux principes, des principes anciens, pas forcément des principes de vieux, mais des principes anciens, alors que d'autres sont beaucoup plus combatifs et sont prêts à donner des médicaments plus énergiques, voire même plus agressifs à leurs patients. Il y en a qui sont certainement trop agressifs. Il faut trouver le juste milieu, et de nouveau, ça dépendra du dialogue entre le médecin et le patient pour savoir, ça devrait dépendre du dialogue entre le patient et le médecin pour déterminer au mieux le meilleur traitement pour chacun. Alors, pour le traitement, on commence en général à parler du syndrome sec. Vous savez que le syndrome sec est dû à une inflammation des glandes lacrymales et des glandes salivaires qui provoque la sécheresse de la bouche et des yeux, mais en fait, toutes les glandes dites exocrines, c'est-à-dire qui produisent quelque chose vers l'extérieur du corps, peuvent être affectées, notamment les glandes exocrines au niveau de la peau, sécheresse de la peau, les organes génitaux, ça peut être un gros problème chez les femmes surtout, mais chez les hommes aussi, et puis au niveau de l'arbre bronchique, ça peut provoquer de la toux, ça peut provoquer un enrouement, ça peut provoquer parfois des problèmes d'élocution, des dysphonies, qui ont de la peine à parler ou à chanter, c'est assez fréquemment cité. Donc, un syndrome sec qui est vraiment, peut-être, tout à fait généralisé. Alors, comment est-ce qu'on traite ce syndrome sec? D'abord, pour la sécheresse buccale, qui est très, très fréquente. Le traitement de la sécheresse buccale, vous le savez probablement tous, est très important pour le confort, bien sûr, mais aussi pour la santé des dents. Parce que la santé des dents dépend de la salive. La salive joue un rôle très très important pour protéger les dents contre les microbes, elle contient des substances antibiotiques, et contre l'acidité. Elle contient des tampons qui neutralisent l'acidité. Raison pour laquelle c'est important pour quelqu'un qui souffre d'un problème de sécheresse buccale de ne pas consommer trop d'aliments acides, des agrumes ou des choses comme ça, et s'il en prend, de relativement rapidement après les avoir consommés, se rincer la bouche, si possible avec quelque chose qui est capable de tamponner, de neutraliser ces acides. Donc il faut éliminer également les sucres, parce que les sucres jouent un grand rôle dans l'agression, bien sûr, des dents par les microbes qui provoquent les caries. Et tous ces sucres ne sont pas lavés chez quelqu'un qui a un syndrome sec par la salive. Ils ne sont pas éliminés normalement. Donc, c'est très important de prendre ça en compte. Alors, ça commence par une bonne hydratation qui ne doit pas être faite n'importe comment, cette bonne hydratation. Il faut boire régulièrement de l'eau ou des liquides, donc sans sucre, et si possible pas acide. Donc, il faut éviter toutes les boissons gazeuses. Les boissons gazeuses contiennent énormément d'acide. Hein, le Coca-Cola, le Schott, même le jus de pomme. Le jus de pomme gazeux en bouteille contient beaucoup d'acide, plus du sucre en général. Donc, tout ça, c'est très mauvais pour les dents. Les dents de tout le monde, mais spécialement pour les dents de quelqu'un qui souffre d'un syndrome de Sjögren. Alors, à éviter au maximum. Et puis, si on en consomme, essayez de se rincer la bouche de nouveau avec un rince-dents qu'on trouve dans les grandes surfaces ou en pharmacie. Faire bien attention à certaines eaux dites eaux, mais qui contiennent des arômes et qui contiennent généralement du sucre et généralement qui sont souvent acides aussi. Donc ces eaux, il y a des eaux de Vitel, de Vichy, etc. qui sont aromatisées, mais c'est pas bon non plus pour les dents.
Où se trouve le thé dans cette liste, le thé et le café?
Alors le thé et le café, s'il n'est pas sucré, en principe, il est très bien. Sauf qu'il provoque facilement des dépôts sur les dents, donc une coloration des dents qui sera plus forte chez quelqu'un qui n'a pas de salive pour s'en protéger. Alors, pour ça, ce n'est pas idéal. Mais par contre, de faire comme les Italiens, c'est-à-dire boire un café et ensuite un bon verre d'eau, ça c'est parfait. Et pareil pour le thé. Exactement. Éviter si on prend des stimulants salivaires, ce qui peut aider, il y a des stimulants salivaires comme le chewing gum par exemple, simplement. Alors là, bien sûr, aussi éviter des stimulants salivaires qui contiennent du sucre ou des acides. Éviter aussi les médicaments qui peuvent aggraver la sécheresse. Alors ça, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'une classe de médicaments qui favorisent la sécheresse, comme par exemple les antihypertenseurs, en tout cas certains antihypertenseurs ou certains antidépresseurs, mais parmi les antihypertenseurs, il y en a qui favorisent plus la sécheresse que l'autre, donc choisir plutôt ceux qui n'augmentent pas trop la sécheresse. Ne pas hésiter à installer de bons humidificateurs chez soi, ça fait partie du traitement. De bons humidificateurs qui ne soient pas trop dangereux d'un point de vue microbe. Hein. Vous savez que les humidificateurs peuvent être de plusieurs qualités. Il y en a qui dégagent beaucoup de microbes dans l'atmosphère. Ce n'est pas idéal parce que les gens qui ont des problèmes de sécrétion bronchique ont aussi plus facilement des infections. Donc, essayez de trouver un bon humidificateur pour ça.
Excusez-moi.
Oui.
Est-ce que vous avez un bonbon pour stimuler la salive qui n'est pas acide, sans sucre?
Oui, alors il y en a. Il faut trouver des bonbons sans sucre et sans acide. Il y en a à l'amigo, par exemple.
À la sauge, là, ces trucs comme ça.
Ceux que je connais sont à la menthe, mais ça doit se trouver. Tout ce qui est sans sucre et sans acide est bien.
Mais sans sucre, c'est acide, le sans sucre.
Ah non, pas forcément. Pas forcément. Bien sûr que s'il y a du citron dedans, du vrai citron, ce sera acide. Et quand on rajoute du sucre dans un jus de citron, c'est pas ça qui va faire baisser l'acide. Hein. Le mettre du sucre, ça n'enlèvera, ça ne diminuera, ça ne modifiera pas le pH, qui est la mesure de l'acidité. Ça diminuera la sensation d'acidité, mais pas l'acide. Donc il ne faut surtout pas rajouter du sucre dans une boisson acide en disant on protège les dents comme ça. Et pour les bonbons, vous avez les candidats, c'est les bonbons candidats de l'amigo qui sont relativement bien pour ça. Merci. Alors ensuite, les soins dentaires préventifs sont importants, il faut trouver un dentiste qui soit attentif aux problèmes, qui connaisse les problèmes et qui vous propose des bons soins. Il faut souvent aller voir un hygiéniste, plus souvent que les gens de la population générale, probablement. Mais là, ça dépend aussi. Il y a des gens qui ont des dents superbes avec un syndrome de Sjögren et inversement. Donc, ça dépend de son état dentaire. Savoir que beaucoup de frais dentaires peuvent être remboursés par l'assurance maladie, ce qui n'est pas toujours annoncé par les dentistes, mais ce qui est souvent contesté par les assurances, c'est souvent bagarré un peu. Mais quand il y a l'évidence qu'une détérioration des dents est due, par exemple, à un syndrome de Sjögren qui n'a pas été diagnostiqué suffisamment tôt, alors on peut très bien faire valoir ça auprès de l'assurance avec une lettre du dentiste et une lettre du médecin. Et en général, l'assurance finit par entrer en matière. Utilisation de la soie dentaire après les repas, ça c'est le truc classique, hein, mais c'est important toujours. Du fluor régulièrement sous la forme de dentifrice ou de rince-bouche. Et puis, si possible, l'utilisation de dentifrice spécialement conçu pour les bouches sèches. On peut trouver ça en pharmacie. C'est des dentifrices qui tamponnent plus les acides, des dentifrices qui sont moins abrasifs, mais cela dit, les dentifrices modernes en général sont relativement bons, y compris ceux qu'on trouve dans les grandes surfaces, comme la Migros, pour reprendre cet exemple. Voilà. Et puis alors, à côté de ça, là c'est plus pour le confort, mais c'est une importance quand même. Il existe des salives artificielles, comme le gland de Zahn. Je crois que le gland de Zahn est la seule salive artificielle sur le marché en Suisse. Alors, c'est un double intérêt. Non. Oui.
Alors, il y a le multi-ara qui est bien, qui est même mieux, parce qu'il a un pH neutre, parce que le gland de Zahn a un pH acide.
Ok, voilà, impeccable, j'apprends quelque chose.
En fait, la fondation des dentistes, il y a un rapport sur le
multi-ara, sur les salives.
Ah oui, oui, mais il faut faire une demande de remboursement par l'assurance maladie. C'est remboursé selon la liste des moyens et à part le multi-oral.
Okay.
Voilà. Il y a Spray et Gel. Okay. Et on peut demander un remboursement pour ça. Si jamais. Voilà.
Je regarde de moi normalement les deux histoires.
le gland de Zahn a un pH acide, c'est ça le problème.
Ah, ça, je ne savais pas. Et
la Fondation Suisse des Dentistes a testé plusieurs salives artificielles. Ouais. Et puis, sur leur site, il y a un rapport qui dit que la pH acide, elle, j'ai testé.
D'accord.
On est fait avec un papier pH et c'est acide.
C'est quand même incroyable qu'ils aient mis ça sur le marché. Alors, bravo. Merci. Donc, salive artificielle. Alors, c'est un double intérêt. D'abord, ça améliore le confort. Et puis, ça diminue la sensation de soif. Et la sensation de soif due à la sécheresse de la bouche est un piège parce que si on boit trop souvent de l'eau, on risque de laver le reste de salive qu'on a et d'aggraver le problème de détérioration dentaire ou de non-protection correcte des dents. Donc ça vaut la peine de prendre ce gland de Zahn pour ce double intérêt. Ensuite, il existe des stimulants systémiques, des anticholinergiques, des cholinergiques, pardon, comme la pilocarpine, vendue sous le nom de salagène. En fait, c'est celui qu'on prescrit en première intention parce qu'il est facilement remboursé, il est généralement efficace. Tous ces stimulants systémiques ont l'inconvénient d'avoir des effets systémiques. Donc, ils ne feront pas qu'augmenter la salivation, mais ils augmenteront la transpiration, ils augmenteront d'autres choses. Alors, parfois, ça peut être recherché chez les gens qui ont la peau trop sèche ou qui ont d'autres systèmes qui sont trop secs. Le salagène peut présenter un intérêt considérable, d'autant plus qu'il a une durée d'efficacité dans le sang qui n'est pas trop grande, donc le problème de transpiration ne se prolonge pas forcément très longtemps. Et il y a des patients qui sont contents de prendre ce salagène 3 ou 4 fois par jour. Pour ceux qui n'auraient pas d'efficacité avec le salagène ou qui ne le toléreraient pas, il existe deux autres molécules, la sévimeline et le sulfarlène, mais généralement on a des problèmes de remboursement avec ces molécules-là qui sont considérablement plus chères. Alors ensuite, une autre chose qui est importante, c'est la reconnaissance rapide et le traitement rapide des candidoses. L'absence de salive favorise aussi la croissance de candida, donc de champignons, qui se manifestent par des douleurs, des sensations de brûlure, une hypersensibilité ou des lésions blanchâtres dans la bouche, et qui doivent être traitées bien sûr avec des antibiotiques, des antifongiques adéquats. Et il faut les traiter parce qu'elles peuvent être extrêmement pénibles. Et souvent, elles ne sont pas bien différenciées par le patient de la simple sécheresse. Donc, en cas de doute, il faut vraiment montrer sa bouche à un médecin ou à un dentiste pour mettre en évidence une éventuelle candidose. Et puis ensuite, les immunosuppresseurs systémiques. Est-ce que pour le syndrome sec, on va proposer des immunosuppresseurs systémiques? Alors, rarement, hein. Rarement, uniquement pour un syndrome sec isolé, on proposera des immunosuppresseurs systémiques. Par contre, ce qui est clair, c'est que les gens qui ont un syndrome sec associé à des manifestations extraglandulaires, qui peuvent être plus ou moins sérieuses et qu'on traitera par des immunosuppresseurs systémiques, eh bien, iront mieux au niveau de leur syndrome sec. Et un très bon exemple, c'est dans le traitement de la polyarthrite. Vous savez, donc ce syndrome de Sjögren est très souvent associé à la polyarthrite rhumatoïde. Dans la polyarthrite rhumatoïde, on a toute une gamme de traitements qui sont très efficaces pour la polyarthrite, y compris par exemple les anti-TNF. Mais les anti-TNF, dont vous avez probablement, pour beaucoup d'entre vous, entendu parler, ces anti-TNF ne sont pas efficaces sur le syndrome sec, alors que d'autres médicaments, comme le Mactera par exemple, sont beaucoup plus efficaces. Les patients qui ont une polyarthrite d'un syndrome sec, le constate généralement assez rapidement, ils vont mieux avec le Mactera qu'avec les anti-TNF. Donc en général, uniquement pour le syndrome sec, on ne propose pas d'immunosuppresseur, sauf cas exceptionnel de sécheresse oculaire majeure qui peut provoquer qui peuvent poser un danger pour l'œil. Et donc, dans ces cas-là, parfois, on est amené à proposer des immunosuppresseurs. Cela dit, la plupart du temps, le syndrome sec est associé à d'autres manifestations qui, elles, justifieront un traitement systémique, et on va y revenir. Alors, comment traiter la sécheresse oculaire? Là, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, reconnu que le Schirmer, hein, on met un petit buvard dans l'œil, c'est pas très agréable. Normalement, on doit le faire avec un anesthésique. Pour deux raisons, d'abord c'est moins inconfortable, et deuxièmement, la mesure est plus précise parce que la gêne provoquée par le buvard fausse les données, et il faudrait mettre un anesthésique avant de mettre le buvard. Donc on détermine comme ça, avec le test de Schirmer, le degré de sécheresse, qui est une aide pour le diagnostic, et puis éventuellement une aide ensuite pour le suivi, pour voir si telle ou telle intervention a amélioré la situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer pour le traitement de la sécheresse oculaire? D'abord, bien sûr, les larmes artificielles. Les larmes artificielles sont très utiles, ça je crois que tout le monde l'a constaté. Il existe beaucoup de larmes artificielles et de gels artificiels sur le marché. Souvent, les gens aiment bien en prendre deux différents, un pour la nuit et un pour la journée. Et la tolérance ou le confort avec ces gels artificiels varie beaucoup d'un patient à l'autre. Donc le mieux, c'est d'essayer différents gels ou différents colliers et de prendre celui qui convient mieux. Une chose qui est relativement importante, c'est les monodoses. On a la chance en Suisse de pouvoir utiliser assez facilement les monodoses plutôt que des flacons, des petites bouteilles, desquels on sort les larmes les unes après les autres, les gouttes les unes après les autres. Pourquoi? Parce que les flacons contiennent des agents conservateurs. Ces agents conservateurs qui empêchent les microbes de pulluler dans le flacon qui était ouvert et qui reste ouvert une seconde ou deux. Et ces agents conservateurs sont pas excellents pour la santé de l'œil si on les utilise longtemps et chroniquement, et pourraient favoriser, on pense qu'ils favorisent la cataracte. Déjà, l'inflammation chronique favorise la cataracte et les agents conservateurs également. Donc, pour cette raison, en général, on propose des monodoses.